Mercredi 4 octobre 2023, vous êtes en compagnie de Rukaito Abdrahmane pour l'édition de 17h. Tout de suite, les titres. Une rencontre a réuni hier le Premier ministre Mahamat Lamine Zen et les forces vives du pays. Entre autres points discutés, les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Les détails sont à suivre dans un instant. Ces mêmes sanctions de la CEDEAO ont fait gonfler le prix des produits de première nécessité. C'est le cas de Takeita, dans la région de Zender, où les populations appellent l'État à l'aide. La partie magazine de ce soir s'intéresse à la transhumance dans la région de Zender avec toute sa complexité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais, le Premier ministre Mahamat Ali Zen a rencontré hier les chefs traditionnels, les leaders religieux et la société civile. Cette rencontre s'est déroulée en présence de certains ministres et membres du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Premier ministre a rappelé les sanctions de la CEDEAO qui ont touché le peuple nigérien sur tous les plans. On l'écoute sur des propos recueillis par la télévision nationale Télé-Sahel.
Dans le cas de l'Algérie, nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative. Lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non, ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles. Permettez-moi le terme, mais je mesure ce que je dis, nous manipuler. Et si l'Algérie souhaite venir apporter sa contribution pour sortir de la crise, cet ensemble est d'accord parti que nous devrions définir les conditions de cette initiative. Au cas du Nigeria, de Dosso jusqu'au lac, c'est des parents de part et d'autre. On a vu ces populations se soulever pour s'opposer à tout usage de la force contre notre pays. On s'est retrouvé face à une situation où autour du chef de l'État nigérien, nous avons des éléments très précis. Il y a des gens qui travaillent à démolir cet effort. Mais nous ne perdons pas espoir que très rapidement, nous allons pouvoir reprendre pour que très rapidement, évidemment, les sanctions puissent être levées.
Dans une note circulaire en date d'hier mardi 3 octobre de la Direction générale des douanes, le Niger interdit formellement toutes les exportations de gaz, de pétrole liquéfié jusqu'à nouvel ordre. Le directeur général des douanes, Abu Ubandawaki, exhorte les agents à une application stricte des termes de l'arrêté et à une vigilance accrue pour déjouer ce qu'il appelle toute tentative d'exportation frauduleuse de ce produit hors du Niger. À cet effet, les directeurs régionaux des douanes et d'autres acteurs du domaine sont chargés de veiller à l'exécution de la note circulaire. Depuis la fermeture des frontières entre le Niger et certains pays membres de la CEDEAO, le prix des denrées de première nécessité connaît une flambée. C'est le cas de Takeita dans la région de Zender où les populations appellent l'État pour un contrôle strict des produits et des opérateurs économiques. On les écoute au micro de Marwan Hussein.
La population se plaint beaucoup de l'attitude de nos commerçants ces derniers temps. Certains disposent des anciens stocks de produits, mais dès qu'ils apprennent que d'autres ont augmenté les prix, ils le font aussi. Nous avons appris que dans certains pays qui ont connu la même situation que le nôtre, les commerçants ont baissé carrément les prix de leurs produits. Ils n'ont qu'à nous le faire chez nous aussi.
Avant, le kilo du riz coûtait 350 francs, voire 450 francs. Puis le prix est monté à 500 francs. Et maintenant, c'est jusqu'à 700 francs. Le riz n'est plus accessible aux pauvres citoyens. À plus forte raison, celui qui a au moins 4 enfants. C'est vraiment pas bien. Le sac est passé de 13 000 francs à 18 000 francs. Vraiment, l'on doit revoir les prix des denrées.
Le département d'Arlit dans la région d'Agadez connaît souvent de l'insécurité. À cela s'ajoute le trafic du carburant, un phénomène que dénonce la population qui appelle les autorités à plus de vigilance. On écoute quelques citoyens de la ville d'Arlit au micro de Moutar Abdoulaye.
Ce que je veux dire aux autorités en charge de la sécurité ici à Arlit, c'est d'être très regardant envers les stations-service implantées dans cette ville. Nous observons des choses dont ils doivent être au courant. Il a été dit que l'État a interdit de vendre plus de 2 bidons de carburant, mais il y a des véhicules qui partent dans ces stations avec des tonneaux ou des bidons. Les autorités doivent veiller au respect de cette mesure de l'État, car le simple citoyen ne peut rien.
Par rapport à cette situation, il faut que les autorités concernés prennent leurs responsabilités, car il y a beaucoup de choses qui se passent à Arlette, autour des stations d'essence. Il faut conserver les citernes qui sortent avec le carburant. Il y a des gens qui viennent acheter dans des bidons ou dans des tonneaux. Vraiment, ce n'est pas du commerce qu'ils font avec.
1800 migrants subsahariens, dont la majeure partie des Nigériens, parmi lesquels 216 enfants refoulés d'Algérie, sont arrivés dimanche à Agadez. Cette vague constitue la première et aussi la plus grande depuis les événements du 26 juillet 2023. Ces migrants ont une certaine assistance en alimentation et en eau, selon Souleyman Issaka, divisionnaire au service de protection des enfants d'Agadez. Il est au micro de Moussa Mamad.
C'est une vague composée d'environ 1800 personnes, hommes, femmes et enfants. C'est en tout cas l'une des plus importantes vagues que nous avons accueillies depuis les événements du 26 juillet 2023. Pas exclusivement composée de Nigériens, mais il y a aussi quelques nationalités qui sont automatiquement prises en charge par OIM pour ceux-là qui veulent bien sûr retourner chez eux. Mais sinon, en majorité, c'est une vague composée de Nigériens. Au niveau de la Direction régionale de la protection de l'enfance, on est beaucoup plus focalisé sur tout ce qui est mineur. Et dans cette vague, il y a 276 enfants qui ont été enregistrés. Mais nous, à notre niveau, nous ne prenons que les enfants non accompagnés. Il a été mis à notre disposition 90 enfants non accompagnés, parmi lesquels il y a 46 garçons et 44 filles. Ce sont toujours les mêmes conditions, hein. C'est par des camions qu'ils sont acheminés jusqu'à Agadez. Mais quand même, il y a une certaine assistance qui leur est offerte, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en matière d'alimentation et d'eau.
Autre aspect de ce journal, une mission du service communication au niveau du programme national de lutte contre le sida, les hépatites et les IST a tenu hier 3 octobre une réunion au district sanitaire de Filengué avec la participation des différents prestataires, décideurs et communautaires. Madame Issa Bibata, responsable de la mission, fait le point au micro de Abdoulaye Bagassa.
Pourquoi cette mission de sensibilisation? Nous avons remarqué que la discrimination est un fléau continue à freiner la riposte au VIH. Nous sommes dit que nous devons rentrer au niveau des régions du Niger pour sensibiliser ces leaders. D'autant plus que nous voulons mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030. Les gens ne veulent pas venir se faire dépister par peur d'être discriminés. Donc, c'est vraiment un combat d'ensemble. Cette discrimination, comment la combattre? Il y a des lois qui sont là. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand tu commets un acte discriminatoire, il y a une sanction qui est suivie. Donc, c'est ça l'objectif. Vraiment, c'est de réduire la discrimination chez les personnes vivant avec le VIH.
Dans la région de Diffa, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont souvent meurtriers en cette période de récolte. Lors d'une rencontre de partage d'expériences à Diffa entre chefs traditionnels de la région sur comment faire face à ce problème, le chef de canton de Ménesseroua s'exprime. Kachella Abdougasso Kachellou est au micro de Maine Abdoulaye.
Les violences se sont exacerbées ces derniers temps, car on parle de pertes en vies humaines où on a blessé un tel avec une arme blanche. Cela n'est pas normal. Dans ce pays, personne ne peut dire qu'il ne profite pas avec l'autre, qu'il ne profite pas de l'autre. L'agriculteur ne peut pas dire qu'il ne va pas vivre avec l'éleveur et vice-versa. Aujourd'hui, les éleveurs font de l'agriculture, tout comme les agriculteurs font de l'élevage. Donc, ce sont des activités communes. Il ne devrait pas avoir de conflits communautaires à cause des ressources, que ce soit les aires de pâturage, les champs ou autres. Ce n'est pas normal. Auparavant, les choses étaient bien organisées. Si l'éleveur descend avec ses animaux pendant que les champs ne sont pas libres, il ne va pas introduire ces animaux. Il faut après. Chaque chose a son temps.
La population d'Agadez a célébré hier mardi 3 octobre le Tandé, une fête traditionnelle et religieuse qui marque la célébration du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, nous fait l'historique de cette fête. Il est au micro de Moussa Mamad.
La fête ND est vraiment la semaine qui suit la naissance du prophète, Anab sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en principe, c'est le jour du baptême du prophète que les Agadésiens fêtent, comme ils fêtent aussi le jour et la veille de sa naissance. Alors, depuis hier, les éléments ont continué à prêcher, vraiment les sourates et les lectures qu'ils font pendant les mois de Moulud. Alors, c'est la continuité. Aujourd'hui, c'est le jour du sacrifice, du baptême. Donc, à partir de 7h du matin, il commence jusqu'à l'arrivée des autorités coutumières et administratives. Donc, pour l'immolation, le sacrifice du mouton en cette journée de baptême. Donc, c'est ça le sens du tendé. Ensuite, le soir, la résistance continue. Donc, le sultan retourne à la même place. Donc, pour le tendé proprement dit, donc les femmes vont sortir, les bouchers vont faire le pas de danse par rapport à ça. Et en dernière position, le circumfawa, le chef des bouchers, va fermer la marche par sa danse et le sultan retourne au palais.
Un mot de sport dans cette édition, les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine Colombie 2024 de la FIFA battent leur plein. L'équipe nationale du Niger, les Gazelles U20, affronteront leur homologue de la Guinée-Conakry, le Sélé national, en match aller le 12 octobre au stade Général Sénoukounté de Niamey. Le match retour est prévu le 15 octobre, toujours à Niamey. À cette occasion, le sélectionneur national El Hadj Kofi Cyprien et ses filles seront face aux garçons du MENA U17 ce soir en match amical pour les préparatifs de cette compétition. Et puis la partie magazine de cette édition. La transhumance dans la région de Zinder se pratique sur plusieurs axes et implique les éleveurs locaux et ceux des pays frontaliers. Cependant, malgré les lois qui l'encadrent, il y a quelques difficultés relatives aux aires de repos des animaux et l'occupation des couloirs de passage des animaux par les populations. Pour en savoir plus, Tanan Fouda Ahmed s'est entretenu avec Ibrahim Lado Moussa, membre de la Fédération des éleveurs et FN Dado de Zinder, on l'écoute.
Dans la région de Zinder, il y a plusieurs axes de transhumance. Il y a l'axe qui part de Gouré jusqu'à Zinder et qui continue vers Maradi et Nigeria. Il y a un autre qui prend naissance de Kazawe via vers Takaya, descendre vers Moa et Kanyawa, Medakusa qui va aussi vers le Damergou. Il y a un autre mouvement aussi qui quitte le Damergou, qui se joint vers Gaouna, entre Arunguza et Gaouna pour pouvoir amorcer le mouvement ensemble.
Est-ce qu'avec les pays frontaliers comme le Nigeria et le Tchad, il y a nos éleveurs qui traversent?
Oui, il y a nos éleveurs qui traversent le Nigeria. Il y a même ceux qui sont du Niger maintenant, ils sont en Centrafrique. Mais compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut au Nigeria, beaucoup des éleveurs nigériens restent maintenant au Niger. Et il y a même ceux du Nigeria présentement qui sont dans le département de Zinder, notamment les White Fulani qui ont les vaches blanches et le Bokolodi.
Est-ce qu'il y a des lois qui cadrent cette transhumance transfrontalière ici?
Il y a des lois qui cadrent le mouvement de la transhumance, notamment le poste de contrôle au niveau des différentes frontières. Et aussi les carnets de vaccination. Il y a le carnet aussi du troupeau qui démontre que le nombre de troupeaux exact que l'éleveur détient. Puisqu'il y a des mal intentionnés qui se font des éleveurs qui volent des animaux pour traverser les frontières. Et avec ce contrôle, vraiment l'État prend en charge tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans de bonnes conditions.
Relativement à cette transhumance, il y a ce qu'on appelle les aires de repos. Des animaux qui sont censés être installés à chaque 20 km. Est-ce que ces aires-là, ils existent sur la route de ces transhumants?
Vraiment, ça n'y est pas. Si vous quittez Guidigir, il faut venir jusqu'à côté de Hamdara pour avoir une aire de pâturage. Ça dépasse vraiment 40 kilos. Et de là-bas, il faut venir à côté des médiations des carrières. Et pour traverser Zinder, c'est vraiment toute une catastrophe. L'aire de pâturage de Zinder, elle est occupée. Elle n'y est pas, c'est vers Cherkia. Vraiment, elle est monopolisée par les parcelles et les habitations.
Est-ce qu'ici, au niveau de la région des Zinder, il y a des problèmes par rapport à la mobilité des animaux?
Par rapport à la mobilité, il y a des problèmes, notamment au niveau de la descente. Et aussi, après la descente, il y a aussi les problèmes au niveau de l'accès au point d'eau. Et dans la région des Zinder, le problème le plus sérieux se trouve entre Guidimouni et Zinder. Et le deuxième, c'est entre Lengiwa via Imbirji et dans le Damergou.
Qu'en est-il de cette question de partage des ressources pastorales?
Bon, le partage de ressources sur le pâturage, il n'y a pas assez de problèmes.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.